Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h46, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Jean-François Copé.
Bonjour Jean-François Copé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Le débat politique de la primaire est si nul que cela, comme le dit Alain Juppé?
Ça dépend des moments.
Il parlait d'un moment précis, c'est-à-dire la dernière vocation de Nicolas Sarkozy.
Le dernier piège sur les Gaulois, là, c'est ça.
Piège c'est, à quoi
Oui, bon, j'allais dire piège à naïf, quoi. Hein. Ça fait combien 10, 15 ans que régulièrement Nicolas Sarkozy aime animer le débat avec des vrais faux sujets, quoi. Parce que là, trois jours avant, c'était l'homme n'est pour rien dans le changement climatique. Enfin, je crois qu'on n'est pas du tout. C'est pas ça l'enjeu.
Non, l'enjeu, c'est pour vous, parler c'est de par l'avenir. Exemple cette phrase, ça vole bas ou ça ne valait pas cette polémique, tout simplement.
Les deux. Je pense qu'en réalité, le sujet de fond de cette primaire, c'est comment on imagine la France pour les 10 ans qui viennent, alors qu'elle est en train de connaître un décrochage majeur. Et je pense que ce type de polémique a un objectif. Et je regrette que beaucoup tombent dans le piège. C'est d'éviter de parler des raisons pour lesquelles la droite a perdu en 2012 et qui a conduit au quinquennat désastreux de François Hollande.
Et en parlant de l'échec de 2012, ça ramène évidemment au bilan de Nicolas Sarkozy. Vous le ciblez prioritairement, mais pour l'instant, il est bien le candidat autour duquel s'articule le débat. Qu'est-ce qui vous manque, vous, par exemple?
Oui, c'est normal. Ouais. C'est normal, d'abord, parce qu'il a des moyens et des pouvoirs que les autres n'ont pas, avec le soutien du parti.
Vous dénoncez l'utilisation du pouvoir
En tout cas, c'est un fait, mais surtout au-delà de ça...
C'est un fait que quoi, pardon?
Je le regrette, oui, bien sûr, mais c'est comme ça. Ça fait partie des données de cette campagne, mais au-delà de ça...
C'est-à-dire qu'il a des partis à sa disposition,
Bien sûr, juste pour aller au fond des choses. Quel est notre sujet? Ça fait 30 ans que les politiques successifs, de gauche comme de droite, n'ont qu'une idée en tête. Ne pas prendre les décisions qui vont permettre de rentrer dans le 21e siècle. Ça veut dire que depuis des années, on met une pompe à morphine qui s'appelle les dépenses sociales et que c'est au détriment de tout le reste. 33% de dépenses sociales sur le PIB contre 3% pour la sécurité. Comment voulez-vous que ce pays ne soit pas devenu vulnérable?
Alors, on s'est trompé depuis 30 ans. On va en parler, parce qu'il y a certaines de vos propositions sur lesquelles on va s'arrêter. Mais il n'empêche qu'il y a une campagne. Il y a des candidats qui émergent dans le débat sur cette campagne, et pas vous. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est une question de personnalité, d'image, de thème?
Écoutez, je suis incapable de vous répondre, en vérité. Attendons la fin de la campagne. On verra les résultats à la fin.
On parle à ce stade.
Moi, je ne sais pas analyser ça aujourd'hui. Je sais juste vous dire que je suis aujourd'hui parmi les candidats qualifiés, avec un message. Je veux faire en 2017 la rupture que nous avons tous espéré en 2007 par rapport à ce modèle qui ne convient plus. Je veux la faire. Et je veux la faire comment? J'ai appelé ça la droite décomplexée. Vous savez, c'est pas du tout une droite Trump. Une droite simplement qui ne reculera plus devant les réformes.
La droite décomplexée, on ne recule plus, sont d'ailleurs des slogans qu'a repris Nicolas Sarkozy.
Oui.
Ils vous volent votre campagne?
Non, mais c'est vrai que ça m'a fait un peu sourire parce que moi, le slogan que j'ai choisi, c'est « On ne recule plus », qui est un message direct à l'égard, bien sûr, Nicolas Sarkozy, mais aussi des quatre autres qui ont gouverné avec lui, ce qui n'était pas mon cas entre 2007 et 2012.
Vous dites la bande des quatre, d'ailleurs.
Oui.
C'est une formule qui a été utilisée en France par Jean-Marie Le Pen.
On parlait de ça aussi après Mao Tse-Tung. Donc vous avez
les
deux
côtés. Oui, mais en France, c'était Jean-Marie Le Pen.
En tout cas, mon idée, elle est simplement de dire... On a espéré la rupture en 2007, elle n'a pas eu lieu, c'est-à-dire qu'on n'a pas supprimé les 35 heures, on a baissé les effectifs de police, on a laissé filer les déficits, on a fait, hélas, augmenter les impôts, et du coup, la gauche est arrivée. Et donc, simplement, mon message par rapport à cela, c'est de dire qu'il faut un tournant sécuritaire et régalien. Aujourd'hui que nous avons, que nous payons aujourd'hui notre vulnérabilité pour ne pas l'avoir fait avant.
Alors de fait, votre campagne est assez axée sur l'identité, très sécuritaire, assez à droite. Vous voulez par exemple supprimer le droit du sol et pas seulement l'aménager comme Nicolas Sarkozy.
Oui, je pense que quand on a lancé cette polémique un peu absurde sur les Gaulois, on n'a du coup pas parlé de l'essentiel que veulent les gens, c'est-à-dire quel avenir, qu'est-ce qu'on veut en matière de politique d'immigration et d'assimilation.
Alors, vous voulez supprimer le droit du sol pour le remplacer par une adhésion volontaire.
Mais oui, bien sûr. Aujourd'hui, on est français un peu par hasard. Quand on est issu de parents étrangers, il n'y a pas de réflexion sur ce que c'est qu'adhérer à la nation française.
Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, Jean-François Copé. Aujourd'hui, 90% des enfants nés en France, de parents étrangers, font déjà un acte volontaire pour devenir français avant 18 ans. Alors quand vous dites « je veux supprimer le droit du sol », l'automaticité, elle ne concerne que quelques milliers de personnes.
Mais non, c'est pas tout à fait exact, en fait, parce que ce qui se passe concrètement, c'est que cette automaticité, elle arrive parce que les conditions d'adhésion ne se traduisent pas par une démarche.
Mais elle ne concerne que quelques milliers de personnes. Vous voulez supprimer le droit du sol, c'est important. Le droit du sol, ça fait partie des traditions françaises.
Ouais, enfin,
et en réalité...
Je vous réponds, si vous le permettez. Mon idée est la suivante. Elle est qu'en réalité, on soit dans une logique d'adhésion. Je m'explique. Il faudrait que, lorsque, d'abord, quand on est enfant de parents français, le droit, ce qu'on appelle le droit du sang, même si le mot n'est pas très joli, s'applique pour ceux qui sont issus, qui sont nés en France, mais de parents étrangers. Mon idée est qu'il y ait, à l'âge de 16 ou 18 ans, des conditions d'adhésion, de volonté, avec en particulier l'absence de casier judiciaire, la maîtrise de la langue française.
En fait.
Ah oui, mais c'est très important, parce que dans la pratique, il y a une certaine forme d'automaticité, alors que demain, ce que je souhaite, c'est que l'adhésion se traduise par un certain nombre de conditions à remplir.
Mais ce n'est pas un chiffon rouge que vous agitez comme d'autres pour faire croire à votre détermination.
Je ne crois pas, je crois que c'est plus concret.
Migratoire.
Non, mais c'est un des éléments, il y en a beaucoup d'autres. Je crois qu'en fait, il faut un comme on dirait en anglais, un package complet de mesures pour rétablir l'idée de l'autorité. Et c'est ce que j'inscris dans une démarche qui est de dire on le fait tout de suite par ordonnance, les 15 décisions à prendre. Vous disiez tout à l'heure, vous rebondissiez sur mon idée d'un virage sécuritaire parce que je pense que l'État doit aujourd'hui protéger les Français.
Mais par exemple, les reconduites à la frontière des députés du droit d'asile. Tous les candidats disent aujourd'hui qu'il faut la rendre plus efficace, ce processus.
Bien sûr.
Comment vous faites
Premièrement, il faut plus d'effectifs. Moi, je propose l'embauche de 50 000 policiers, gendarmes, magistrats, gardiens de prison, militaires. Nous avons aujourd'hui un déficit d'effectifs dans le régalien qui explique nos vulnérabilités. Et pour ce qui concerne les reconduites à la frontière, le cas de Calais est typique. De quoi parlons-nous ? De l'application du traité du Touquet avec les Anglais, qui est en notre défaveur et qui avait été signé en 2003. Donc, ce que je veux qu'on change aujourd'hui, c'est le système de fonctionnement de tout cela. Il faut qu'on aille beaucoup plus vite dans l'instruction des droits des demandes d'asile, par exemple.
Défi aujourd'hui.
Il faut qu'en 3 mois, on soit capable de le faire. Et on en aurait les moyens si on met les effectifs correspondants.
Alors, comment convaincre ? C'est pas seulement vous d'ailleurs, mais c'est votre défi collectif. Que vous ferez, que vous tiendrez vos promesses ? Aujourd'hui, vous êtes, c'est vrai, crédité de 2-3%. Ça peut changer, mais à ce stade, les Français ne vous font pas confiance. Ça peut changer, ça ?
Bah écoutez, sinon, alors ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de faire des élections. Contentons-nous des sondages. Et je crois qu'en réalité, l'intérêt des campagnes, c'est qu'elles vont permettre de voir les candidats en vrai et pas simplement ce que l'on dit d'eux. Et c'est tout l'intérêt des débats, des émissions. Il faudra pour cela que les choses se fassent dans la parfaite équité entre les candidats. Et je crois que derrière ça, chacun délivrera son message. Moi, j'en ai un, qui est de dire la rupture que je préconise, elle a un objectif, réarmer la France. Sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan économique. Nous n'avons pas eu le temps encore d'en parler, mais je veux simplement dire d'un mot que réarmer la France sur le plan économique, ça veut dire qu'une fois qu'on protège les Français, on leur fait confiance. On libère l'économie.
On aura l'occasion d'y revenir pendant la campagne. Je voudrais vous poser
un numéro Siret, par exemple, dès l'âge de 16 ans, pouvoir gagner de l'argent en travaillant et sans être salarié.
On apprenait dans Le Monde daté de jeudi, Jean-François Copé, que l'ex-UMP aurait pris en charge des sondages commandés par Patrick Buisson à Prix d'Or sous la présidence de Xavier Bertrand et la vôtre, entre 2009 et 2012. Il avait un poids sur le parti, Patrick Buisson, à l'époque. Il pouvait imposer des prestations.
Écoutez,
c'est la question qu'on se pose quand
imposer.
On voit les montants. D'abord, vous, est-ce que vous avez découvert cette situation quand vous êtes arrivé président de parti ?
Non, mais moi, nous avons travaillé, le parti a travaillé tout au long du quinquennat avec Patrick Buisson dans une logique de coordination, puisque lui réfléchissait et travaillait avec nous sur la coordination de la stratégie entre l'Élysée et le parti. Donc là-dessus, le fait de travailler avec lui était quelque chose qui était parfaitement connu. Après, en ce qui concerne les conditions de ce travail...
La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est l'Élysée qui faisait payé par l'ex-UMP,
il y a une enquête qui est en cours, on va laisser cette enquête se terminer, moi je n'ai pas de commentaire à faire, j'ai été d'ailleurs entendu comme témoin simple, je m'empresse de vous le dire, j'ai donné d'ailleurs tous les éléments aux enquêteurs sur ce sujet, et c'est à eux naturellement de déterminer ce qu'il en est, pour ceux qui me concernent, je vous le dis très, très simplement et très clairement, j'ai bien sûr travaillé avec Patrick Buisson, comme l'ensemble de ceux qui coordonnaient l'action avec l'Élysée.
Pour le deuxième tour, si vous n'étiez pas qualifié, vous vous rapprocheriez d'Alain Juppé ?
Bah écoutez, je vous propose qu'on en reparle. Vous savez, je ne suis pas dans une candidature de témoignage. Ça me rappelle quand Arlette Chabot interrogeait Jacques Chirac il y a quelques années.
C'était pas la même chose. Elle lui demandait s'il allait arrêter. On ne doute pas que vous alliez jusqu'au bout.
Bon.
On vous demande si au deuxième tour,
enfin,
vous rapprocheriez d'Alain Juppé.
Je vous propose que nous laissions cette campagne se dérouler.
Merci beaucoup, Jean-François Copé, d'avoir été avec nous.
Les polémiques lancées par Nicolas Sarkozy servent à masquer son bilan, nous a notamment dit Jean-François Copé. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.